Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour le 149e numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Après être revenu sur la 3e édition des Franco-Russes lors de notre précédent numéro, nous sommes toujours dans l'attente d'une véritable reprise des concerts en public. Elle adviendra peut-être au mois de juin, une reprise en mai semblant tout de même peu probable pour l'instant. La situation étant ce qu'elle est, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, nous allons poursuivre le cycle que nous consacrons depuis quelques temps à Mozart. Il y a déjà eu 5 volets, l'enfance et la jeunesse du compositeur, ses concertos pour piano, ses opéras, ses œuvres de musique sacrée, et plus récemment sa musique de chambre, dont nous avons surtout exploré les quatuors et quintettes à cordes, partie très prolifique et souvent géniale de l'œuvre de Mozart, mais nous n'en avons pas terminé avec sa musique de chambre, puisqu'il a composé aussi de nombreuses pièces du genre pour des instruments à vent. Ce sont celles-ci que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui, en compagnie du mozartien passionné qu'est Serge Krichevski, oboïste à l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie, vice-président des Clés de Saint-Pierre et président du Festival Musique au Palais. Tout de suite, retour sur la musique de chambre pour instruments à vent de Mozart.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à vous aussi Serge, ravi de poursuivre ce cycle Mozart avec vous et de partir ensemble à la découverte de sa musique de chambre pour instruments à vent. On sait qu'il vouait un grand amour à cette famille d'instruments, amour qui lui avait peut-être été transmis par son père. Est-ce qu'on trouve vraiment beaucoup de choses, beaucoup de pièces pour instruments à vent dans l'œuvre de Mozart, alors que c'est en général plus marginal chez d'autres compositeurs ?
Bonjour à tous, bonjour Eric. Effectivement, on trouve beaucoup d'œuvres pour instruments à vent dans la musique de Mozart et surtout des œuvres d'une très grande qualité. Évidemment, Mozart avait toujours, même dans une œuvre censée être mineure, des éclairs de génie. Enfin, parfois, ça s'exprime sur un mouvement, un passage dans un mouvement. On a beaucoup d'œuvres très très belles pour instruments à vent. Il était quand même très inspiré, très régulièrement par cette famille d'instruments. Il a écrit pour eux avec des cordes, avec piano, en concerto et également, il les a beaucoup utilisés dans l'orchestre, dans ses opéras notamment.
Alors, on va se concentrer, nous, sur la musique de chambre. Pour quel type de formation ou de composition a-t-il beaucoup utilisé les instruments avant ? Alors, c'est très variable parce que ça va du trio à l'octuor, comme on va pouvoir
absolument,
le voir,
oui,
et
oui.
Même plus que ça, parfois.
Alors, ça commence au duo. Hein. Il y a des duos, il y a deux bassons, deux cors. On va entendre tout à l'heure un trio pour des clarinettes graves. Et puis, ça va jusqu'à des groupes qui font 10, 12 instruments, 13 instruments, enfin, des groupes très, très importants qui correspondent à ce qu'on appelait la musique d'harmonie, harmonie musique, qui était dans les cours princières et nous en reparlerons.
Est-ce qu'il y avait parmi la famille des instruments à vent un instrument qui particulièrement retenait à la fois son attention, son intérêt et qui l'inspirait beaucoup ?
Alors très certainement, il y a un instrument qui se détache vraiment de son corpus de composition, c'est la clarinette. Il faut savoir que la grande majorité de ses œuvres pour instruments à vent ont été écrites pour deux raisons, soit pour des commandes pour des gens desquels il se détachait, enfin des gens qui étaient anonymes ou qui lui faisaient par intermédiaire d'amis, ou bien des amis vraiment très proches, intimes, qui étaient devenus intimes et qui ont suivi Mozart jusqu'à sa mort et qui ont échangé avec lui, et pour lesquels il a écrit parfois spontanément ou bien même sur des commandes, comme c'est le cas du concerto pour clarinette, des œuvres. Et des concertos, des œuvres de musique de chambre.
Alors ça, on va le voir, et puis on parlera justement de certains de ses amis, souvent très proches, musiciens eux-mêmes, pour lesquels il a composé des œuvres pour instruments à vent. Il va y avoir de nombreux extraits dans cette émission pour illustrer notre propos et la musique de chambre pour instruments à vent de Mozart. En voici un premier qui va nous permettre d'entendre le célèbre trio pour clarinette, alto et piano en mi bémol majeur, plus connu sous le nom de trio des quilles. On écoute le rondo, le troisième mouvement.
Thank you.
le troisième mouvement rondo du trio des quilles de Mozart, trio pour clarinette, alto et piano en mi bémol majeur K498, interprété ici par Michel Portal, Gérard Cosset et Jean-Philippe Collard. Serge, un commentaire sur cet extrait et sur cette œuvre composée en août 1786, et peut-être une explication sur le titre qui lui a été attribué après coup, trio Kegelstadt, trio des quilles.
Alors, c'est un exemple de ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire que ce trio aurait ou a très certainement été écrit au cours d'une partie de quilles. Donc Mozart était très joueur, il aimait beaucoup, il était très sociable également, il aimait jouer au billard aussi. Donc au cours d'une partie de quilles chez la famille Jacquin, qui était d'une famille d'amis très très proches.
C'était un professeur de chimie et de botanique.
Exactement, Nicolaus von Jacquin, dont la fille était pianiste. Et ben Mozart a écrit ce trio. Il en a lui-même interprété la partie d'alto, et un célèbre clarinettiste de l'époque dont nous reparlerons, Anton Stadler, donc jouait la partie clarinette. Et ça se passait chez les Jacquin, une œuvre très étonnante parce qu'elle a déjà un alliage qui est assez original, hein, clarinette, alto et piano, assez très rare à l'époque.
C'est très novateur à l'époque,
oui,
ou ça existait
non,
déjà
non,
un
non,
petit
non,
peu?
Non, absolument pas. C'est certainement une idée originale de Mozart. Donc effectivement, en 1786. Alors c'est une des œuvres qui est devenue très rapidement très célèbre et beaucoup joué. Hein. Souvent, ça tient aussi à des questions d'édition, c'est-à-dire quand une œuvre est bien éditée, elle est rapidement jouée. Donc, on a en plus dans les mouvements des originalités, c'est-à-dire qu'on commence par un mouvement de tempo modéré, ensuite un menuet et des rondos, un certain nombre de rondos qui s'enchaînent et il n'y a pas véritablement de mouvement lent.
Donc, voilà, type de formation clarinette, piano et alto qui sera repris plus tard par Schumann, par Max Bruch également. Nous poursuivons maintenant avec un nouvel extrait dans cette émission et un autre instrument avant pour lequel Mozart a pas mal composé aussi, la flûte traversière. Et nous allons écouter le deuxième mouvement adagio du quatuor numéro 1 pour flûtes et cordes en ré majeur K285, interprété par le grand flûtiste français Emmanuel Pahu. Thank you. Le deuxième mouvement Adagio du quatuor numéro 1 pour flûtes et cordes en ré majeur K285 avec Emmanuel Pahu à la flûte. Après la clarinette, la flûte donc pour laquelle Mozart va composer plusieurs quatuors, il va y en avoir 4, à une époque où cet instrument était encore très neuf et qui avait même, je crois, la réputation de sonner faux, Serge, en tout cas aux oreilles de Mozart.
Alors, il n'était pas aussi neuf que la clarinette, mais il était effectivement, il n'avait jamais été utilisé de cette manière. Et ce qui est curieux, c'est qu'on a un exemple ici d'un instrument pour lequel Mozart avait dit ne pas aimer. Hein, donc on a quand même une magnifique mélodie avec les cordes en pizzicato. Et particularité aussi, ce mouvement, le mouvement lent, s'enchaîne au mouvement rapide, ce qui n'est pas très fréquent à cette époque. Donc effectivement, 4 quatuors pour flûte, 2 concertos pour flûte, concerto également qu'on entendra plus tard pour flûte et harpe, un instrument que Mozart n'aimait pas beaucoup. Il y a eu des commanditaires, il y a eu notamment un amateur hollandais, Ferdinand de Jean, qui lui a commandé toutes ses œuvres, et Mozart s'en est acquitté vraiment avec son génie habituel. C'est-à-dire que même quand il n'a pas le plus haut sommet d'inspiration, il se met à la tâche et il a des illuminations comme celles qu'on vient d'entendre.
Alors ce quatuor pour flûte, alto, violon et violoncelle a été composé le jour de Noël 1777.
Oui.
Je dis ça pour l'anecdote, mais c'est assez souvent que Mozart compose pour des fêtes ou pour fêtes religieuses en général.
Oui, j'aurais eu tendance à dire que, bon, en plus, il y avait quand même de la monnaie sonnante et trébuchante.
Oui, qui arrivait derrière.
Qui arrivait derrière, donc il devait peut-être être pressé, et puis parfois il n'avait pas de repos les jours de fête, mais...
Troisième extrait et nouvel instrument avant pour lequel Mozart a composé, un instrument qui vous est cher, puisque c'est le vôtre, Serge, le hautbois.
Oui, juste une petite chose sur ce quatuor avant qu'on l'entende. C'est-à-dire qu'il a une particularité à la fin de l'extrait que vous entendrez, c'est de superposer une mesure binaire, une mesure ternaire. C'est-à-dire à un moment, vous entendrez un rythme de valse, clairement, et le hautbois joue dans une rythmique complètement différente. C'est une chose très extraordinaire dans cette musique à cette époque, hein, une idée que Mozart a eue.
Voici donc le rondo, le troisième mouvement du quatuor avec hautbois K370. Il est interprété par le hautboïste et chef d'orchestre britannique Douglas Boyd. Le rondo, troisième mouvement du quatuor avec hautbois K370, interprété par le grand hautboïste Douglas Boyd. Alors, je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant que c'est une œuvre chère à votre cœur. Serge, d'ailleurs, une œuvre que vous avez jouée vous-même.
Oui, effectivement, j'ai eu grand plaisir à la jouer. Elle est très chère au cœur de tous les hautboïstes parce qu'elle est absolument magnifique. En général, on la préfère même au concerto que Mozart a écrit pour le hautbois, un peu avant, je crois. Et on la joue chaque fois qu'on peut. Et il y a un mouvement lent qui est aussi magnifique, très, très poignant également, un peu comme celui qu'on a entendu avec la flûte avant. Et il y a ces curiosités dans ce rondo. C'est vrai qu'on a un passage comme ça beaucoup plus dramatique et puis qui débouche sur une originalité de rythme. Voilà, toujours un grand plaisir de jouer ce quatuor et j'espère de l'entendre pour le public.
Quatuor avec hautbois unique en son genre concernant Mozart, même s'il composera un quintet avec hautbois un peu plus tard.
Alors, il y a le quintet avec piano, c'est-à-dire pour hautbois, clarinette, voilà, hautbois, clarinette, corps et basson et piano. Mais pour le hautbois en musique de chambre, il n'y a que ça, effectivement.
Une sérénade maintenant, la sérénade numéro 11 pour vent en mi bémol majeur K375 que Mozart a composé à Vienne en octobre 1781. Particularité, c'est un octuor, on écoute son troisième mouvement Adagio, interprété par le Holliger Wind Ensemble. Le troisième mouvement Adagio de la sérénade numéro 11 pour vent en mi bémol majeur K375, interprété ici par le Holliger Wind Ensemble. Donc deux clarinettes en si bémol, deux bassons, deux hautbois et deux cors en mi bémol pour cet octuor à vent qui était un sextuor à la base, puisque Mozart a ajouté deux parties de hautbois en juillet 1782. Est-ce que c'était une première à l'époque, cette formation avec 6 puis 8 musiciens, Serge?
Alors en fait non, les ensembles d'harmonie, donc les ensembles à vent, existaient déjà et en particulier dans les cours princières, mais ils étaient un petit peu moins répandus que les orchestres à cordes. Cependant, le prince Schwarzenberg, qui était un grand prince viennois, aristocrate viennois, avait eu l'idée d'avoir à sa cour un sextuor à vent, composé de deux clarinettes, deux bassons, deux cors. L'empereur a voulu suivre son exemple et s'est mis à en créer un. Et c'est à l'occasion de la création de ce sextuor, donc de la version sextuor de ce qu'on vient d'entendre, que Mozart a entendu jouer Stadler pour la première fois, entendre Stadler. Alors, il se trouve que le goût à Vienne changeant énormément et très très vite, l'empereur s'est mis brusquement à vouloir un octuor plutôt qu'un sextuor. Alors Mozart s'est remis au travail, a transformé le sextuor en octuor et ça a donné ce que nous avons entendu. Il a également écrit dans la foulée la sérénade Köchel 388, qui est la suivante que nous allons entendre, et il a écrit probablement à peu près à la même époque la magnifique grande partita pour 13 instruments à vent. Mais cette formation d'octuor, il faut savoir qu'elle correspond à peu près en équilibre acoustique à la formation du quatuor à cordes pour les cordes, c'est-à-dire que le problème de l'homogénéité se pose très différemment puisqu'on a des timbres différents. On a le timbre du hautbois, clarinette, basson, cors, et il faut que le compositeur ait le talent de fondre tout ça en même temps, à certains moments, de faire des contrastes et de distinguer chaque instrument. Mozart, visiblement, s'est beaucoup intéressé à cette question et il a poussé très très loin le raffinement, et de plus en plus, en écrivant ses œuvres, il a scindé, il a individualisé toutes les parties, en particulier les parties graves. On entendait à l'instant dans l'extrait précédent à quel point le thème magnifique de cet adagio est varié. On a des arpèges de cors, de bassons qui tournent autour de la mélodie. Mozart a ce talent d'imaginer exactement ce qui convient parfaitement pour l'instrument qu'il utilise. Donc, il va écrire à l'été 1782, toujours pour essayer de se mettre sur les rangs dans l'harmonie impériale, l'octuor Köchel 388, qui est un autre chef-d'œuvre, mais dans un genre beaucoup plus sombre et qui est adoré de tous les instrumentistes avant parce que c'est une œuvre extraordinaire et très étonnante.
Eh bien, comme vous l'avez déjà annoncé, nous continuons avec une autre sérénade, la sérénade numéro 12 en ut mineur pour vent K388, composée entre 1782 et 1783, dont voici le premier mouvement, Allegro. Le premier mouvement Allegro de la sérénade numéro 12 en ut mineur pour vent K388 de Mozart, qu'on appelle aussi Nachtmusik, mais rien à voir avec la petite musique de nuit, Serge.
Non, non, non.
Alors, de nouveau, octoire avant, sauf que là, il y a une contrebasse en plus.
Oui, alors, les musiciens que nous venons d'entendre ont ajouté une contrebasse, qui est plutôt une bonne idée. Je pense qu'ils doublent la partie de second basson, enfin, ils ont fait un petit arrangement, mais ça sonne très très bien. Alors, il faut rappeler aux amateurs d'opéra que, pour souligner cette mode des ensembles avant qui étaient chez les aristocrates, chez les princes ou même chez l'empereur, pour des fêtes, parfois des concerts, vraiment avec des compositeurs qui écrivaient à la commande, on la trouve à la fin, dans la scène du banquet de Don Giovanni, il y a un octuor qui apparaît et qui joue des airs à la mode, notamment il y a le Non più andrai, je crois, issu des Noces de Figaro du même Mozart, mais donc c'est Mozart qui utilise cette formation dans le cadre d'un banquet. Alors évidemment, il a écrit dès son jeune âge, dès 1000 ans, dès son arrivée à Vienne, il y avait déjà des formations, notamment des divertissements, des sérénades, des cassations, pour ensemble de 10, 12, souvent 6, instruments avant. Mais c'est une formation qui ne va pas réellement survivre au-delà de 1800-1810, sauf sous forme d'arrangement. C'est-à-dire que Mozart lui-même, parce que la mode avait encore changé auprès de l'empereur, a fait un arrangement de son opéra L'Enlèvement au Sérail. Plus exactement, il a commencé à le faire et il a été dépassé en vitesse par un autre oboïste qui s'était mis à faire cet arrangement puisqu'il n'y avait pas de droit à l'époque. Et du coup, Mozart s'est arrêté. Mais il y a beaucoup d'arrangements qui ont été faits après la mort de Mozart, magnifiquement réussis, de ses opéras, La Flûte Enchantée, Les Noces de Figaro, et également il y a des arrangements de Fidelio, des opéras de Rossini. Donc voilà, c'est une formation qui a servi à ça, mais il y a eu beaucoup moins, quasiment plus d'œuvres originales écrites pour ces formations après 1800-1810.
Alors il y a tout de même Beethoven, donc qui a composé
Beethoven a écrit une œuvre avant 1800. Il a écrit une de ses, comme ça, une partita.
1796 ou 17.
Exactement. Enfin, c'est une œuvre qu'il a écrite à Vienne, d'ailleurs.
Et ça a été un peu le dernier du genre, a priori. Est-ce qu'il y en a eu d'autres?
Il y a dû y en avoir d'autres. Haydn en avait écrit avant Mozart, mais c'est quand même un style pour lequel on écrivait beaucoup. Mais après, les modes ont changé et puis le style est devenu différent. nous allons entendre en fait ensuite vraiment le chef-d'œuvre du genre qui a été écrit un petit peu avant le Köchel 388, mais vous allez nous en parler.
Absolument. Alors, je vais juste donner une petite anecdote, c'est qu'en 1787, Mozart a transcrit cet octave avant K388 pour quintet à cordes, c'est ce qui va devenir le quintet à cordes numéro 2.
Oui.
Bon,
oui.
Il faisait souvent ça.
Mais c'est-à-dire, c'est une œuvre, je pense, à laquelle il tenait beaucoup, qui est très dense. Hein. Elle porte le nom de sérénade. En réalité, elle a beaucoup plus une forme symphonique en quatre mouvements, et tous les mouvements sont extrêmement écrits, et ils portent notamment la trace de la musique de Jean-Sébastien Bach que Mozart avait connue entre-temps.
Alors, vous venez de l'évoquer, nous allons monter encore d'un cran dans l'instrumentation avec la sérénade numéro 10 en si bémol majeur K361, connue aussi sous le nom de Grande Partita, une pièce dont la date de composition est incertaine, sans doute 1781, qui compte 7 mouvements et qui réunit rien moins que 12 instruments avant et une contrebasse. On écoute tout de suite le début du troisième mouvement, Adagio. Le troisième mouvement Adagio de la sérénade numéro 10, K361, la grande partita de Mozart, interprétée par les solistes du London Symphony Orchestra. Alors là, Serge, on a vraiment affaire à un des chefs-d'œuvre de la musique de chambre pour vent avec cette pièce qui a presque des allures de symphonie.
Oui, c'est vraiment un sommet du genre, hein, indéniablement, et une œuvre très longue, hein, qui est éprouvante pour les interprètes, mais bon, dont on a pu entendre à l'instant, on a entendu vraiment le cœur, hein, c'est-à-dire cette musique-là qui démarre sur une pulsation des instruments graves, et puis cette note aiguë du hautbois qui nous transporte complètement dans un autre monde. Richard Strauss, qui a beaucoup emprunté à Mozart dans l'esprit et dans la lettre, écrira des grandes symphonies pour instruments à vent dans les années 1940, mais à l'époque classique et même romantique, rien ne pourra dépasser cette œuvre. C'est vraiment un très, très grand sommet. Elle a été jouée, cette œuvre-là, en 1784 pour un concert au bénéfice d'Anton Stadler, qui jouait probablement la partie de premier corps de basset. Nous allons en parler. Et il a écrit, Mozart, une semaine après cette œuvre magnifique que nous vous avons fait entendre dans l'émission sur les concertos pour piano, qui est le quintet Köchel 452 pour piano et quatre instruments à vent. Donc une semaine après, peut-être dans la foulée, il a cette inspiration de nouveau très très originale d'associer et d'équilibrer quatre vents avec un piano.
Alors, je vais quand même préciser l'instrumentarium donc de cette grande partita, une contrebasse, comme je le disais, deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons, deux cordes bassées, deux cordes en fa et mi, deux cordes basses en si. Les cors de basset. Alors ça, je pense que pour beaucoup de nos auditeurs, ça ne doit pas dire grand-chose. Donc c'est dans la famille des clarinettes, c'est plus grave que la clarinette classique. Mais surtout à l'époque, c'est un instrument très neuf.
Alors c'est un instrument... Alors déjà, la clarinette est elle-même très peu utilisée. Enfin, en tout cas, dans la musique symphonique, dans les opéras, on la trouve très peu. Et on peut dire d'une certaine manière que Mozart est l'inventeur. Il a tout de suite mis la barre très très haut puisque... Il rencontre Anton Stadler, en 1781, et il y a une amitié très forte qui se noue entre eux, une amitié qui est parfois un petit peu curieuse, dans le sens où Stadler va être le débiteur de Mozart, il va lui emprunter de l'argent alors que Mozart a lui-même énormément de dettes, il va lui commander des œuvres qu'il ne lui payera pas, etc. Il n'en reste pas moins que l'amitié est vraiment très très solide jusqu'au bout, et Mozart écrira un très grand nombre d'œuvres, et en commencera aussi, qu'il a interrompu, pour ce clarinettiste qui avait un frère aussi clarinettiste, mais il était spécialiste de ce qu'on appelait à l'époque la clarinette de basset. Alors, le corps
c'est
de...
même le créateur,
voilà,
je crois.
Alors, le corps de basset et la clarinette de Basset,
aussi,
voilà. En réalité, il a travaillé avec un autre facteur qui s'appelait Theodor Lotz, autrichien également, et qui aura aussi l'occasion de travailler sur le contrebasson. Travaille à la clarinette de Basset, qui est une clarinette plus grave que la clarinette traditionnelle. Alors, Stadler jouait certainement très très bien, extrêmement bien de toutes les clarinettes, mais il avait un grand talent pour le grave, pour le registre grave, qu'on appelle le registre du chalumeau. Et donc, il a voulu aller encore plus loin et rallonger encore l'instrument. Et en réalité, excepté, si je ne me trompe pas, excepté le trio des quilles que nous avons entendu au tout début, la plupart des œuvres écrites pour une clarinette concertante, c'est-à-dire le quintet pour clarinette, le concerto et d'autres pièces, sont écrites pour clarinette de basset. C'est une clarinette qui est très longue. Alors le cor de basset, qui n'a rien à voir avec le cor d'harmonie, qui est un instrument en bois, avec un pavillon soit en bois, soit plus récemment maintenant en cuivre. Mais si vous voulez, d'une certaine manière, c'est une sorte de petite clarinette basse. C'est une clarinette intermédiaire entre la grande clarinette qu'on connaît en si bémol ou en la, et la clarinette basse qui est beaucoup plus grave, qui a un pavillon recourbé argenté et un bocal également recourbé argenté. Donc le cor de basset a été énormément utilisé par Mozart dans ses opéras. Alors, il a écrit des pages avec les chanteurs dans la Clémence de Titus. Il a utilisé les cors de basset dans toute la partie maçonnique ou religieuse de la flûte enchantée. Il a également utilisé les cors de basset dans le Requiem, notamment cette introduction très mystérieuse et poignante au début du Requiem. Voilà, et je le disais, Richard Strauss réutilisera beaucoup ses cors de basset au tournant du 19e et du 20e siècle et dans tous ses opéras. Mais nous allons entendre des pièces que Stadler avait certainement demandées, ou peut-être que Mozart les a écrites pour le plaisir de Stadler, sans qu'elles soient vraiment destinées à des concerts. Hein, ce sont, Eric, vous allez nous en parler, les trios.
Voilà, parce que Mozart appréciait tellement le cor de basset qu'il a composé un trio pour cet instrument, le trio numéro 2 pour trois cors de basset K439B, dont nous allons tout de suite écouter le menuet. Du trio numéro 2 pour trois cors de basset K439B de Mozart. En fait, cette œuvre est une suite de 5 divertissements, Serge Le Menuet étant le deuxième des 5. Œuvre singulière que ce trio pour trois cors de basset, unique en son genre a priori.
Alors, c'est vrai que ce menuet là, qui est une forme que Mozart pratiquait énormément, on voit à quel point il réussit à lui insuffler une vivacité, un rythme extraordinaire, bondissant avec ses trois cors de basset, qui participent dans la grande partita. Les cors de basset sont absolument absolument importantissime. Il participe de ce tapis qu'on a au début de l'adagio avec les cors, les bassons. Et là, donc, effectivement, il écrit probablement pour Stadler et son frère et quelqu'un d'autre une série de plusieurs trios. Il y a aussi d'autres œuvres qui ont été commencées, mais c'est vrai que les cors de basset ont été utilisés probablement par Mozart pour la première fois au moment de la grande partita en 1781. Après, il y a beaucoup d'autres compositeurs qui ont utilisé à l'époque le cor de basset, mais personne n'a égalé vraiment le génie de Mozart dans la sensation qu'il a eue de cet instrument. C'est-à-dire que dans cet adagio, encore une fois, qu'on a entendu tout à l'heure, on entend les registres, la clarinette a une étendue très très grande, et Mozart utilise parfaitement ces grands intervalles qui font chanter, qui permettent de passer du grave à une magnifique sonorité.
Vous pensez que c'est pour ça qu'il appréciait tout particulièrement cet instrument, l'étendue de
très
ses possibilités?
C'est certainement une des raisons, d'autant plus que Stadler pratiquait très bien le grave de l'instrument, et Mozart a beaucoup utilisé, enfin il a écrit, c'était quelqu'un qui avait un sens aigu des possibilités d'un instrument. Hein.
Et des sonorités qu'on pouvait en tirer. Nous allons maintenant retrouver la flûte dans l'extrait qui va suivre, la flûte associée à la harpe dans le concerto pour flûte et harpe K299. C'est son deuxième mouvement Andantino que nous écoutons, interprété entre autres par l'excellente flûtiste anglo-américaine Amy Ferguson. L'Andantino, deuxième mouvement du concerto pour flûte et harpe K299 de Mozart avec Amy Ferguson, une des grandes flûtistes actuelles. Il faut préciser que cette œuvre est la réunion de ces deux instruments solistes avec un orchestre à cordes, hautbois et corps, et le fruit d'une commande, Serge. Et ça a à voir avec la France, beaucoup.
Oui, alors en fait, cette œuvre a été écrite, donc c'est un petit peu antérieur à ce qu'on a entendu auparavant. Avril-mai 1778, et c'est une commande, donc. Mais on voit à quel point, là aussi, d'une commande, Mozart invente une atmosphère poétique extraordinaire, avec deux instruments, juste un petit tapis de cordes. C'était effectivement un militaire français qui était flûtiste, et dont la fille était harpiste, qui enfit la commande à Mozart, le comte de Guines, qui dut quand même se faire tirer les oreilles pour payer sa commande. C'est un peu triste quand on songe à ce que Mozart a dû endurer très souvent, et d'autant plus que ce voyage à Paris, c'est le voyage où sa mère va mourir.
Ouais, c'est son dernier séjour parisien.
Voilà, et qui lui laissera de très mauvais souvenirs. Mais heureusement, il nous reste à nous le concerto pour flûte et harpe, et cet alliage qui existait, il devait y avoir effectivement des morceaux pour flûte et harpe. Mozart le magnifie complètement, et en particulier dans cet Andantino.
Voilà, il existe une version célèbre de la harpiste, tout aussi célèbre, Lily Laskin, avec Jean-Pierre Rampal à la flûte. Nous allons retrouver maintenant un type de formation qu'appréciait particulièrement Mozart et pour lequel il a beaucoup composé, le quintet. Nous avons vu ça lors du volet précédent du cycle que nous lui consacrons. Et il a composé notamment un quintet avec clarinette qui porte le numéro K581 au catalogue. Voici son premier mouvement Allegro. Il est interprété par le clarinettiste Wolfgang Meyer, accompagné par le quatuor Mosaïque. Le premier mouvement Allegro du quintet avec clarinette K581 de Mozart, interprété par le clarinettiste Wolfgang Meyer, accompagné par le quatuor Mosaïque. Cette pièce est aussi appelée quintet Stadler, puisqu'elle est dédiée à Anton Stadler, donc ce clarinettiste et facteur d'instruments, créateur de la clarinette de Basset, dont nous avons déjà parlé. Et bon, il prenait vraiment une grande place dans la vie de Mozart.
Ça va même beaucoup plus loin que ce que vous dites, puisque l'épouse de Mozart, Constance, trouvait qu'il en prenait un peu trop, notamment à l'occasion des parties de boissons dans lesquelles apparemment Stadler entraînait Mozart. C'était pas tout à fait du goût de son épouse.
Bon, il faut préciser qu'ils étaient aussi camarades dans la même loge maçonnique, alors
absolument.
Peut-être que ça explique aussi leur
absolument.
Très très fort
proximité. Leur amitié a duré très longtemps. C'est vrai que c'est une œuvre splendide, ce quintet assez long aussi, composé et créé à la fin de 1789.
Oui, une année très difficile pour Mozart et œuvre qui va rester unique en son genre, là encore, pour lui, mais qui donnera lieu derrière à quelques compositions. Alors Karl Maria von Weber et Brahms.
Oui, mais il y a Brahms, voilà, l'autre grand sommet de cette formation, c'est Johannes Brahms, bien sûr. Il y en a d'autres, bien entendu, beaucoup de musiciens s'y sont essayés.
Avant-dernière œuvre au programme de cette émission et nouvel instrument avant mis à l'honneur par Mozart dans sa musique de chambre, le cor, avec le concerto pour cor numéro 3 K447 et son premier mouvement Allegro, interprété par le corniste allemand Hermann Baumann, accompagné par le Concentus Musicus Vienne, sous la direction bien sûr de Nikolaus Harnoncourt.
Thank you.
Le premier mouvement Allegro du concerto pour cor numéro 3 K447 de Mozart, interprété par le corniste allemand Hermann Baumann au cor naturel, accompagné par le Concertus Musicus Vienne dirigé par Nikolaus Harnoncourt. L'œuvre date de 1787 et Mozart l'a composé, là encore par amitié pour un musicien, le corniste viennois Joseph Lloyd Gebb, un de ses meilleurs amis.
Absolument, un ami très très fidèle jusqu'au bout. Mozart se réfugiera souvent chez eux. Quelqu'un qui avait une particularité, c'est qu'il avait deux métiers. Il était corniste, bien sûr, musicien, reconnu, et également, il tenait une fromagerie à Vienne. Voilà, il a réussi à faire ça pendant pas mal d'années, et Mozart a écrit 4 concertos pour lui, également le quintet, un quintet pour cor et cordes avec 2 altos, un peu original également. C'est l'exemple, comme ça, d'une œuvre écrite pour un ami. Il faut savoir que le cor, la clarinette aussi, on n'a pas beaucoup parlé des bassons, mais les hautbois, Mozart les avait rencontrés tout au long de ses voyages, extraordinaire musicien. Il avait eu l'occasion d'entendre, ça lui avait fait une grande impression, l'orchestre de Mannheim, qui était l'orchestre du prince électeur de Mannheim, qui avait un orchestre de toute première qualité en Europe, qui était reconnu en Europe pour la qualité de ses musiciens. Et il avait rencontré là-bas des musiciens pour lesquels il a écrit après ça, notamment le concerto pour hautbois, enfin des concertos. Et il avait surtout appris à manier ses instruments avant.
Voilà, donc une œuvre qui est un grand classique du répertoire pour cor. Je pense que tous les cornistes le jouer.
Oui, considéré comme un des plus beaux. Et bon, au cor naturel, c'est particulièrement difficile, mais enfin, c'est très belle pièce.
Il y a une chose un peu étonnante, c'est qu'assez bizarrement, Mozart semblait ne pas la tenir en très haute estime, cette œuvre, parce qu'il ne l'avait pas mentionnée dans le catalogue.
Oui, mais alors son catalogue personnel, et bon, il y avait un certain tri quand même qu'il faisait. Effectivement, Mozart avait une grande conscience de la qualité des œuvres qu'il écrivait. Et puis, à certains moments, il savait qu'il écrivait des œuvres peut-être plus pour se délasser, pour des amis, juste pour l'entraînement des musiciens eux-mêmes ou pour des exercices ou pour des élèves, mais pas forcément des grandes œuvres destinées à la postérité.
Voici la dernière œuvre que nous allons vous proposer aujourd'hui, et c'est une des plus célèbres de Mozart et une des plus célèbres du répertoire pour vent, son fameux concerto pour clarinette, l'instrument avec lequel nous avons commencé cette émission et que le compositeur aura grandement contribué à populariser à son époque. Nous allons écouter le rondo, le troisième mouvement, interprété par le clarinettiste américain Eric Oprich, accompagné par l'orchestre du XVIIIe siècle dirigé par Franz Bruggen.
Thank you.
le rondo très léger, très aérien du troisième mouvement du concerto pour clarinette K622 interprété par le clarinettiste Erik Upprich, accompagné par l'orchestre du XVIIIe siècle dirigé par Franz Bruggen. Mozart a écrit cette œuvre célèbre en 1791, quelques mois avant sa mort, et il s'agit de son dernier concerto, tout instrument confondu, le seul qu'il ait composé pour la clarinette. Mais quel concerto, Serge, encore un chef-d'œuvre éblouissant.
Oui, absolument, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est s'incliner. Le mouvement lent est sublime aussi, vous le connaissez certainement toutes et tous déjà. Mais
très utilisé au cinéma,
voilà, entre autres. Voilà, concerto magnifique dans l'ensemble, d'un bout à l'autre. Et alors, il faut dire que la version originale n'a pas été retrouvée, le manuscrit. En fait, on ne connaît que la première édition, qui était déjà une édition pour une clarinette normale, entre guillemets, comme maintenant, alors que la clarinette de Basset a été reconstituée très récemment.
Œuvre composée, elle aussi, à l'attention d'Anton Stadler, qui jouait, semble-t-il, d'une clarinette trafiquée dont il était le seul à pouvoir jouer, ce qui fut un peu reproché à Mozart à l'époque. Il n'y a que Stadler qui peut jouer.
Oui, effectivement, il n'y a pas dû y avoir beaucoup de... Alors, il avait mis au point cette clarinette avec un autre, avec le facteur Theodor Lotz, dont nous avions parlé. Et bon, il s'est un petit peu approprié l'invention, on va dire. Mais...
Alors, donc, je l'ai dit, c'était la dernière œuvre que nous allions écouter dans cette émission. Et peut-être que certains de nos auditeurs auront remarqué que nous n'avons pas parlé de la symphonie concertante pour quatre instruments avant, Serge. On a encore le temps, dites-moi.
Alors, effectivement, c'est vrai que, bon, il vaut mieux s'arrêter sur une œuvre qui est absolument certifiée de Mozart, le concerto, magnifique concerto pour clarinette. Il se trouve que cette symphonie concertante pour quatre vents est souvent jouée, elle est appréciée du public, des musiciens, mais elle n'est absolument pas certifiée, elle est probablement une œuvre apocryphe, comme on dit, douteuse. Et la raison, c'est que Mozart aurait vraiment écrit une symphonie concertante, mais non pas pour les instruments avec lesquels on la joue maintenant, mais plutôt avec une flûte. Il l'aurait écrite à l'époque où il était à Paris, sauf qu'une cabale, apparemment, a fait disparaître les partitions et cette œuvre n'a jamais été interprétée en 1778, et on a reconstitué, tant bien que mal, les parties d'orchestre, les parties solistes, apparemment avec des erreurs d'instrumentation, et il y a de gros doutes qui planent sur cette œuvre. Elle est néanmoins appréciée, mais elle n'est certainement pas entièrement de Mozart.
Voilà, c'était pour la petite histoire sur laquelle nous allons refermer ce sixième volet de notre cycle Mozart sur son célèbre concerto pour clarinette. Et il n'y avait pas meilleure œuvre pour conclure cette émission consacrée à sa musique de chambre pour instruments à vent, encore un genre que le petit génie de Salzbourg aura porté au plus haut et où il nous a laissé quantité de chefs-d'œuvre. J'espère que vous aurez apprécié d'en découvrir certains ou d'en réentendre d'autres. Je crois qu'on ne se lasse jamais de toute façon d'écouter la musique de Mozart, sans doute une des plus revigorantes qui soit, une vraie musique du bonheur dont nous avons tous besoin en ce moment, alors que nous sommes privés de concerts pour quelques temps encore. Je rappelle que les œuvres qui ont été diffusées lors de ce numéro, comme lors des précédents, sont toutes en accès libre sur YouTube, et je vous invite vivement à ne pas vous priver du plaisir de les écouter dans leur intégralité. Un grand merci à vous, Serge Krzyzewski, de m'avoir aidé à préparer et à animer ce sixième volet et d'y avoir apporté encore une fois votre passion et votre érudition mozartienne. Il devrait y avoir un septième volet prochainement dédié aux symphonies de Mozart. La date reste cependant à déterminer. Tous mes remerciements également à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence comme d'habitude. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité, très bon week-end et excellente semaine à tous.